midi sur Radio Campus Tours. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi trois chroniqueurs littéraires. Mais oui, et on vous dira tout de suite pourquoi ils sont dans le studio. Alors, tout d'abord, bonjour Pauline.
Bonjour.
Alors Pauline, tu es étudiante dans quelle faculté ?
Université de Tours. Alors après, c'est un peu éclaté parce qu'en MEF, on voyage, on voit du pays.
Alors MEF, est-ce que tu veux préciser ce que c'est pour nos auditeurs ?
Métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, donc du second degré dans mon cas, en histoire G.
Voilà, donc c'est pour être professeur, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà. Et alors, j'ouvre le micro de ta voisine. Bonjour Éponine.
Bonjour.
Et toi alors, où es-tu étudiante ?
Alors c'est très drôle puisqu'on est dans la même formation, mais moi je suis en anglais en fait. Donc pour être professeur d'anglais en France.
Est-ce que vous l'expliquez alors un peu ce parcours MEF, puisque visiblement ça regroupe des disciplines, peut-être que vu de l'extérieur c'est pas très clair.
Donc pour l'instant nous notre M1 on se prépare pour le CAPES, donc pour avoir un diplôme pour être professeur d'école en France. Nous c'est second degré, donc plus collège-lycée. Et voilà.
On se regroupe parce qu'en fait, nos cours de professorat, en gros, sont ensemble, donc à l'INSPE, à Fondette. Après, pour les cours disciplinaires, on est chacun de son côté, donc on se croise deux vendredis dans le mois, quelque chose comme ça à peu près.
C'est ça.
Voilà, et j'ouvre le micro de notre troisième chroniqueur. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors, nos auditeurs te connaissent déjà, puisque tu es stagiaire ici à Radio Campus Tours, et toi, tu es en master art du spectacle.
Exactement, je suis en master culture et médiation des arts du spectacle, en première année.
Et alors ce beau master, il débouche sur quoi ? Quelle est toi ton envie ?
Alors mon envie, ce serait de faire de la communication sur l'art, ou alors de l'organisation dans l'art, c'est-à-dire dans les théâtres, les cinémas, mais aussi par exemple, justement, être chroniqueur en radio, organiser des festivals, ce genre de choses.
Alors sachant que c'est compatible, hein, on peut tout à fait faire toutes ces choses-là en même temps.
Oui aussi, mais après ça dépend de comment on s'investit dans chaque chose, donc si on s'investit pleinement dans une seule chose, parfois ça peut être compliqué de... Il ne faut pas négliger qualité et quantité.
Tout à fait, et alors si vous êtes là, c'est parce que, le 17 janvier dernier devait se tenir un événement qui était appelé Prix Alternatif du Roman des étudiants, un événement porté par l'UFR Lettres et Langues de l'Université de Tours, et qui n'a pas eu lieu pour cause de blocage, il me semble, le blocage des sites des Tanneurs. Alors, peut-être avant d'expliquer en quoi consistait cet événement, qui devait... qui comportait des présentations d'ouvrages. On peut rappeler que le site des Tanneurs de l'Université de Tours était bloqué la semaine dernière dans le cadre d'un mouvement de contestation sociale, donc plus large, notamment une lutte engagée contre la réforme des retraites. Et le 15 janvier, à 7h, il y a eu une quinzaine d'étudiants appartenant à des formations étudiantes de droite et d'extrême droite qui ont tenté de déloger les occupants. Hein, et cette action, elle a été revendiquée par l'UDET et la COCARD, donc qui sont deux associations, ou en tout cas deux formations étudiantes d'extrême droite. Voilà, il est question de plusieurs milliers d'euros de dégradation, notamment dans les 3e et 4e étages du bâtiment Tanneur, voilà, et qui serait recouvert de tags, entre autres. Et alors, Philippe Vendrix avait fait savoir qu'il s'opposait à ce blocage. Hein. Il avait communiqué le 16 janvier le message suivant « Je condamne fermement l'occupation actuelle du site des Tanneurs et toutes les violences et dégradations commises à cette occasion. » Alors je ne sais pas si le blocage des Tanneurs est encore effectif ou s'il a été...
Il l'est toujours.
Oui, oui, oui.
Il est toujours, il a été revendiqué qu'il durerait encore une semaine pour l'instant, jusqu'à la prochaine AG qui décidera si oui ou non il continue.
Voilà, et alors, avant de se concentrer sur cet événement prix alternatif du roman étudiant qui a été reporté sur nos ondes, je vous propose d'écouter un court enregistrement sonore qui a été réalisé la semaine dernière sur le site des Tanneurs. Voilà, nous sommes allés au Tanneur à la rencontre des certains étudiants, en tout cas qui occupaient le site des Tanneurs, et nous avons réalisé cet enregistrement. Alors, c'est deux personnes qui nous expliquent pourquoi ils occupent les lieux. Et je vous propose d'écouter ça, on se retrouve tout de suite après.
Ça nous pose quelques problèmes, du coup, quand même. Mais on essaie de l'organiser.
Bien sûr, on n'a pas fait d'aménager tous les lieux, mais le but, c'est qu'on puisse faire ça au fur et à mesure.
Donc là, on est dans le hall des tanneurs. Est-ce que vous voulez me décrire ce qu'on voit là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce que vous avez installé?
En bas. Alors là, on a tout un espace pour faire la cuisine. Donc on a installé des plaques, des gens qui sont en train de cuisiner. Là, c'est là qu'on stocke toute notre nourriture qu'on a récupérée et qui nous a été aussi donnée par les cheminots. Donc on a installé des canapés il y en a un peu partout dans la fac, donc on les a repris. Des tables basses, etc., des fauteuils. Donc là, c'est plus un lieu où on se pose, on discute, on s'organise un petit peu et puis on se repose, quoi.
En fait, comme l'accès est juste ici, le but de ce lieu, c'est aussi de pouvoir accueillir et discuter, avoir une zone de convivialité et d'échange. Donc on a aménagé, en fonction que ça soit accueillant, un minimum.
On peut rentrer dans TLM.
Par contre, on est quand même un peu vigilant et même si jamais on laisse pas rentrer... Enfin, on laisse rentrer des gens qu'on connaît pas aussi, mais on est quand même vigilant sur qui on laisse rentrer et tout.
Le but du blocage, en fait, c'est pas d'empêcher les gens de rentrer, c'est au contraire de leur permettre de se réunir via des conférences, des débats, des assemblées générales pour s'organiser, pour se politiser aussi, et pour organiser en fait une lutte contre la réforme des retraites entre autres. Et du coup, voilà, la fac est ouverte, les gens peuvent rentrer quand les profs viennent, par exemple, pour nous demander s'ils peuvent accéder à leur bureau ou quoi. On va pas leur dire non, on les laisse rentrer. C'est pas c'est un blocage filtrant, en fait.
Après, il faut quand même savoir qu'on a été attaqué par des groupes d'extrême droite ce matin. Donc on est un peu prudent quand même. On essaie un peu d'être prudent sur qui on laisse rentrer. On demande qu'est-ce qu'ils font là, qui c'est, etc.
Mais alors, cette attaque de groupes d'extrême droite, est-ce que vous aviez pu l'imaginer? Est-ce qu'elle était prévisible ou est-ce que vous avez été complètement surpris?
On n'était pas complètement surpris parce que en fait on a un contact qui connaît des gens de ce groupe-là. Le groupe d'extrême droite en question, c'est la Cocarde. C'est un groupe d'étudiants d'extrême droite. Et donc on a un peu un contact qui connaît des gens de ce groupe-là, qui les avait entendus parler du fait de venir au Tanneur aujourd'hui, enfin ce matin ou dans la nuit. Donc on n'était pas totalement surpris, mais on savait pas trop si ça allait vraiment se faire. Et puis on avait d'autres choses à ça. On n'était pas non plus totalement surpris, mais on n'était quand même pas hyper bien préparés.
En dehors de ça, les rixes entre groupes d'extrême droite et de gauche sont fréquentes. Par exemple, on a pu voir à Assas un groupuscule d'extrême droite, donc la Cocarde aussi d'ailleurs, qui a délogé également les bloqueurs. Ici, ils n'ont pas réussi à nous déloger et c'est plutôt une bonne nouvelle. Assas a été bloqué pendant une journée et dans la journée, du coup, la Cocarde est venue et a débloqué la fac de droit. Donc.
Mais alors ça, c'est quand même pour les gens peut-être qui connaissent pas bien les différents sites de l'université de Tours. La fac des Tanneurs, elle a quand même plutôt une réputation de fac de gauche. Donc ça veut dire que ces personnes qui sont dans des groupes d'extrême droite, est-ce qu'ils sont aussi des Tanneurs ou est-ce qu'ils viennent d'ailleurs?
Bah ça, moi je sais pas qui c'était. On peut pas le savoir à l'avance. Il y a des gens d'extrême droite aussi aux Tanneurs, même s'ils sont proportionnellement moins nombreux que dans les autres sites. Moi je savais pas qui c'était. Je sais pas s'ils ont été identifiés, ces gens-là, mais on peut pas savoir.
C'est plutôt en général des gens des Deux Lions qui viennent, soit les gens de l'UNI, donc le syndicat majoritaire aux Deux Lions. Sinon, voilà, c'est l'UDET, donc l'Union des étudiants Tourangeau, c'est un syndicat royaliste qui s'est créé il y a peu de temps sur la fac des Tanneurs et des Deux Lions. Et donc la Cocarde, qui est un autre syndicat d'extrême droite. C'est des gens qui sont plutôt des Deux Lions, mais il y en a quand même quelques-uns qui viennent des Tanneurs.
Vous parliez de la réforme des retraites. Est-ce que vous avez des informations ou des revendications aussi sur la, je ne me rappelle jamais comment elle s'appelle, la LPPR, c'est ça ? La loi de programmation pluriannuelle sur la recherche ?
Pour l'instant, nous, on n'est pas encore très au point sur cette loi. On en a discuté, on sait qu'elle existe, etc. On a parlé aussi d'une mobilisation là-dessus. Mais pour l'instant, on est surtout centré sur la réforme des retraites, surtout que on pensait plutôt plus se centrer sur cette loi-là. Plus tard, quand elle sera plus mise en avant, etc., c'est un peu ce qu'on avait prévu, non ?
Alors là, juste une question peut-être un peu bête, mais derrière vous, on voit qu'il y a quand même tout ce qu'il faut pour nettoyer. Donc c'est-à-dire que c'est quand même pas le gros souk ici, vous faites attention aux locaux. Comment dire, on a entendu qu'il y avait beaucoup de dégradations, qu'il y avait eu voilà, des locaux dégradés, cassés pour des milliers d'euros de dégradation. Pourtant là, on a l'impression, en tout cas dans cet endroit, vous faites attention aux locaux.
Et on a eu des camarades qui se sont retrouvés bloqués dans l'extension au moment où les grilles sont tombées. Et du coup, on s'est retrouvé dans l'obligation de relever les, enfin de forcer les grilles à remonter pour pouvoir du coup permettre à ces camarades-là de sortir et accessoirement aussi garder l'extension pour organiser donc ces conférences, ces débats, ces assemblées générales. Et du coup, par exemple, cette dégradation-là a été décidée collectivement.
Et puisque vous parlez de conférences, d'AG et autres, est-ce que vous avez des contacts avec les syndicats enseignants, par exemple? Des contacts de quel ordre?
Alors, par exemple, pour le premier jour de blocage, on a été soutenu par des syndiqués enseignants, des syndiqués des cheminots, les profs du secondaire, qui organisent d'ailleurs leurs assemblées générales à la faculté, le personnel de recherche également, le personnel de l'université en général, comme ceux qui s'occupent de la bibliothèque. Donc on a plutôt des bons contacts. Demain, on va organiser une projection du film La Sociale à 17h30 qui parle de la création de la sécurité sociale, qui va être suivi d'un débat. On a également à 14h une prise de parole des profs de sociologie qui vont venir du coup expliquer ce qu'il en retourne aussi et leur point de vue. Enfin, on a plutôt des bons contacts. Aujourd'hui, il y avait une AG aussi organisée par le département de géographie de Lyon pour voir ce qu'ils pouvaient faire aussi pour aider dans le cadre de cette lutte. Donc nos rapports avec les syndicats sont très bons. Les profs, les cheminots aussi, qui nous donnent de la nourriture, qui nous donnent du matériel. Mais voilà, enfin, on a des très bons rapports avec les syndicats en général.
Alors, il se trouve aussi que, puisque vous dites qu'il y a quand même des conférences qui se tiennent ici, des âgés, on fait le ménage, c'est un lieu où on peut venir discuter. On voit, là, il y a une exposition photo, il y a un travail photographique. Alors, 1er janvier 2020, démembrement de la SNCF. C'est quoi ce travail photo?
Alors, hier, dans la soirée, il a été décidé, donc, dans le couloir après le hall TLM, d'organiser donc une exposition photo de plusieurs photos de la manifestation de la mobilisation depuis le 5 décembre à Tours. Donc, on peut y voir des étudiants, des cheminots, des profs, des syndiqués du privé également, des trains. Et c'est des images qui nous ont paru marquantes de la mobilisation, justement, pour... parce que ça permet aussi de comprendre visuellement ce qui se passe dans les rues de Tours.
Donc là, on voit qu'après, c'est la zone d'ombre. Là, si on continue un parcours après l'entrée de TLM, là, on se retrouve dans le noir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il n'y a plus de lumière. Enfin,
ce qui s'est passé, c'est que l'administration nous a coupé l'électricité dans toute cette partie-là. Donc, il n'y a plus de lumière, plus d'électricité, etc. Mais donc voilà, là, on peut toujours, du coup, quand on doit se déplacer, etc., on doit avoir une lampe torche ou quelque chose comme ça sur nous pour voir.
Voilà, c'était un enregistrement réalisé sur le site Tanner la semaine dernière. Vous écoutez toujours La Méridienne sur Radio Campus Tours. Et je me tourne vers mes trois chroniqueurs littéraires, Pauline, Éponine et Antoine, avant de passer au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie de réagir sur ce qu'on vient d'entendre?
Personnellement, je suis pas assez calée sur tout ce qui est les réformes, je préfère être honnête, et du coup alors que ça va me toucher, donc je suis vraiment bête, mais tant que personne n'est blessé, je pense que je les soutiens. Voilà, tant que il n'y a pas de dégradation et que personne n'est blessé physiquement, comme il disait là, c'était très intéressant. Il disait que même, enfin, beaucoup de gens étaient derrière eux et que c'était pas méchant, donc je les soutiens.
Pareil, je vais rejoindre Pauline, je le soutiens et je trouve ça déplorable qu'il y ait eu des dégradations par des groupes d'extrême, peu importe le côté au final, donc voilà.
Je les soutiens tout à fait, j'ai pas le temps d'aller aux AG, j'ai pas le temps de participer activement, mais je comprends aussi leur démarche, je suis scandalisé par les actions d'extrême droite. Mais j'ai aussi, je viens de lire certains mails du président de l'université qui justement a mis en avant qu'il avait proposé des solutions, comme par exemple un vote électronique pour savoir si oui ou non le blocus était accepté, et ça a été rejeté par les bloqueurs. Je tiens à m'exprimer là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec les bloqueurs, parce qu'en fin de compte, un vote électronique permettrait aux personnes qui ne se déplacent même pas aux AG pour mettre en avant leur situation et dire non, on n'est pas d'accord. ça leur permettrait de le faire depuis chez eux, et en fin de compte, ça n'a aucune logique du coup. Pourquoi donner la voix à des personnes qui n'osent même pas se déplacer et qui du coup ne feraient qu'un vote électronique?
Et je pense aussi que ça permettra aux gens qui ne sont pas otaneurs et du coup qui ne sont pas concernés de donner leur avis sur... sur quelque chose qui du coup ne les concerne pas totalement, puisque les tanneurs, il n'y a que ceux du coup qui sont en sciences humaines et sociales qui sont vraiment affectés par le blocage.
Voilà, donc, surtout que, voilà, comme il le disait, les deux lions avaient été bloqués un jour et ont été rapidement débloqués par la cocarde.
Eh bien, merci alors pour rassembler nos idées autour de la littérature, puisque c'est aussi pour cela que j'ai la chance de vous avoir dans ce studio. Je propose de faire une courte pause musicale, comme ça on repart sur notre sujet initial et je vous propose d'écouter un peu de jazz sur les ondes de Radio Campus Tour. Vous écoutez Radio Campus Tour, vous écoutez La Méridienne et vous écoutiez Kletka Red Hijacking. Voilà pour mon excellent accent anglais. Alors je rappelle que nos trois chroniqueurs sont ici pour parler du prix alternatif du roman des étudiants de l'UFR Lettres et Langues Université de Tours qui n'a pas eu lieu pour cause de blocage vendredi dernier. Alors, est-ce que l'un de vous veut rappeler pour nos auditeurs en quoi consistait cet événement, ce fameux prix alternatif du roman des étudiants ?
Alors, ce prix alternatif a été créé en partie par la directrice de la BU et aussi d'une professeure qui s'appelle Anna Krikoun. Et en fait, ce prix essaye de pallier les manques du prix officiel étudiant de France Culture et de Télérama. C'est un prix qui est remis tous les ans, avec un choix de 5 romans, malheureusement non choisis par les étudiants. Donc en fait, c'était ça que Anna Krikoun essayait de mettre en avant. C'est pas choisi par les étudiants, donc est-ce qu'il y a vraiment une légitimité à leur demander « Alors, qu'est-ce que vous préférez comme livre ?» Donc elle a voulu mettre en avant ça et créer le prix alternatif, où les étudiants désireux de le faire pouvaient présenter leur livre préféré, leur lecture préférée, sortie en 2019.
Du coup, moi j'ai opté pour un roman américain, donc sorti en juin 2019 aux États-Unis et traduit très rapidement, ce qui est assez rare, c'est-à-dire puisqu'il est sorti en novembre en France, aux éditions Milan, donc c'est Like a Love Story par Abdi Nazemian. Alors je vais commencer par quelques mots sur l'auteur parce que ça donne un peu le contexte du livre. C'est un homme qui est iranien et qui vit aux États-Unis actuellement. Il ne fait pas que auteur en fait, puisqu'il travaille dans une société de production, ce qui l'a notamment poussé à produire Call Me By Your Name, qui est le film qui a eu moult prix il y a 2 ou 3 ans. Et c'est un homme qui est homosexuel, et bon, du coup vous l'aurez deviné de par son background, c'est un livre qui parle de l'homosexualité. Donc dans un New York en 1989, donc on est à la fin des années 80, donc avec tout ce que cela peut engendrer au niveau de pop culture, à un moment aussi où on se rend compte, enfin les politiques plutôt reconnaissent le sida devient un problème, mais c'est le problème des gays, donc on veut pas trop s'en occuper non plus. Donc en fait, dans cette histoire, on va suivre trois personnages. Donc le premier, qui est Reza. Reza est un jeune Iranien, donc on est juste après la révolution en Iran. Donc qui a d'abord fui au Canada, puis aux États-Unis suite au mariage de sa mère. Qui se sait homosexuel, mais qui vit très mal son homosexualité, puisqu'il ne la considère que sous le prisme du sida. Donc en fait, il a peur de tomber malade, il a peur de faire de la peine à sa famille. Au point en fait de sortir avec une femme qui s'appelle Judy. Donc Judy, elle est hétéro, mais par contre elle est complètement excentrique, du coup elle gravite un peu dans cette sphère-là du monde gay. Et elle aime son oncle Stephen de tout son cœur, qui lui est homosexuel et atteint du sida, donc on sait dès le début du roman qu'il n'en a plus pour très longtemps. Et c'est la meilleure amie de Art, troisième personnage, qui lui est un homme gay acceptant totalement son homosexualité, qui activiste d'ACT UP et qui se rend très rapidement de compte que Reza est homosexuel. Donc en gros, chaque chapitre prend le point de vue d'un personnage et tous les trois chapitres, on a un aparté en fait qui est, sont des fiches en fait de la culture gay qui ont été rédigées par Stephen, donc l'oncle de Judy, qui les a données à Art afin que celui-ci puisse comprendre mieux son histoire et ce qui est important en fait pour les homosexuels de ce temps-là. C'était pas il y a si longtemps que ça au final, mais... Donc j'ai choisi ce bouquin parce que il y a quelque chose d'incroyablement vrai qui s'en dégage. Abdi Nazemian, c'est pas une autobiographie, mais presque, puisque le personnage principal est iranien et a énormément de mal à vivre son homosexualité, et c'est quelque chose qu'Abdi Nazemian a notamment décrit à plusieurs reprises pour lui-même. Il est lui-même iranien, il a lui-même eu cette peur du sida parce que c'est la seule chose qu'on voyait de l'homosexualité. Du coup, cette histoire dégage quelque chose de très vrai, très palpable. C'est écrit dans un langage comme on pourrait s'y attendre, c'est-à-dire que j'ai l'impression, à ma lecture, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui me parlait, de pas avoir un livre, mais vraiment, c'est des mots qu'on comprend, c'est pas trop recherché, c'est pas de la jolie phrase, c'est quelque chose de vrai. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et d'un point de vue un peu plus personnel, via mes études, je me suis un peu penchée sur la question gay pour la contemporaine du concours. Et ça rentrait pile poil dans ce que j'étais en train de travailler. Et donc quand les cours deviennent du plaisir et que ça fait sens avec tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on fait, c'est incroyable. Donc voilà, j'ai opté pour ce livre-là. Donc je vais vous en lire un passage. J'ai opté pour un passage tout au début du roman, comme ça je spoile pas trop. C'est une des fiches de lecture, donc je précisais tout à l'heure, qui sont écrites par l'oncle de Judy, à la destination de Art. C'est la première qui est dans le roman, qui s'appelle L'amour. Donc je vous lis ça tout de suite. « Mais je vais te dire, il y a une chose qui nous fera jamais défaut, l'amour. Nous aimons l'art et la beauté, nous aimons les idées nouvelles et repousser les frontières, nous aimons lutter contre la corruption. Nous aimons redéfinir les règles archaïques. Nous aimons les hommes, les femmes, les hommes qui aiment s'habiller en femmes et les femmes qui s'habillent en hommes. Nous aimons les hauts, les bas, les hautes formes, surtout portées par Marlène Dietrich. Mais surtout, nous nous aimons les uns les autres, nous sommes frères et sœurs, maîtres et élèves, et ensemble, nous sommes un tout infini. Le mot le plus important de notre histoire sera toujours l'amour. C'est pour cela que nous nous battons, c'est ce que nous sommes, l'amour est notre héritage. » Voilà.
Est-ce que ça veut réagir dans le studio à cette lecture et à cette chronique ?
Moi qui étais jury du coup du prix étudiant, la plupart des livres n'apportent pas des sujets comme ceux-là, et je trouve ça vraiment dommage parce que on est quand même au 21e siècle. Ce serait vraiment intéressant de voir ce genre de livre. Je suis sûre qu'il y a plein d'informations très intéressantes sur le sida, sur...
Du coup, c'est la fin des années 89, enfin c'est en 89, donc Madonna tient une place très importante dans le bouquin, donc tous les fans de Madonna s'y retrouveront, mais ça parle beaucoup de cinéma, ça parle beaucoup de ce qu'est New York à cette époque-là, ça donne des descriptions de quartiers entiers, tout ça. Donc ouais, et de Culture Gay, de, ça parle des prix de l'AZT qui ont augmenté, puis descendu, puis c'était pas toujours pas suffisant, des interventions d'ACT UP à la bourse, à ce genre de choses. Donc pour ceux qui ont vu le film 120 battements par minute, ça va 120 battements, oui c'est ça, c'est 120 battements par minute, ça va faire énormément d'écho, puisqu'en fait c'est presque le même film aux États-Unis, enfin c'est presque la même histoire mais aux États-Unis.
Moi je suis fan personnellement, hein, je l'ai pas lu, mais alors j'adore Call Me By Your Name, j'adore 120 BPM, j'adore Andrea Siman qui est l'auteur justement de 120 BPM et qui va bientôt sortir son prochain roman, enfin ce que normalement il devrait bien être bientôt traduit. Et je pense que ce genre d'histoire, justement, surtout ces genres de fiches que tu viens de nous lire, ça peut être très intéressant parce que on manque énormément d'informations sur l'époque et souvent c'est à cause de ça qu'on oublie, tout simplement. On oublie comment était la vie en tant que séropositif à l'époque, quand on n'arrivait pas encore à stabiliser la maladie, qu'on en mourait, que c'était physiquement visible. Et faisant partie de AIDS, par exemple, moi, ça me parle énormément, sachant que maintenant, on s'est rendu compte que nos actions étaient beaucoup plus axées sur la prévention et non plus sur les personnes vivant avec le VIH. Donc je pense que ce genre d'histoire, ça peut être vraiment très intéressant et très, très beau.
Du coup, je rebondis. C'est vrai que c'est assez cru, le roman ne cache pas la réalité de ce qu'est le sida. Il y a un personnage qui, quand on l'imagine, il est presque, pas anecdotique, mais c'est quelqu'un qu'on n'a pas forcément envie d'avoir en face de lui, qui est un homosexuel qui a atteint du sida et qui est caractérisé par un énorme manteau de fourrure en fait qu'il porte constamment. Et par contre, on sait qu'en dessous, il est pourri par la maladie, quoi. Il est squelettique, il a des lésions partout. Enfin, c'est la version gay de. Il est un peu décrit comme la version gay de Cruella d'Enfer, quoi. Et c'est un peu horrible quelque part. Et il est constamment mis en rapport avec la société et le fait que les autres hommes le regardent, les gens le regardent avec dégoût, avec peur, avec ça. L'auteur vraiment en scène le rapport des homosexuels atteints du sida comme s'ils avaient la peste en fait. Ça devient les pestiférés de la société de cette époque-là. Et c'est incroyable à quel point c'est véridique et c'est touchant.
Mais c'est exactement ça, objectivement, on a encore beaucoup de. On a très peu de connaissances actuellement. J'ai lu quelque chose récemment sur les manifestations où un manifestant a craché du sang dans la bouche d'un policier et lui a dit « J'ai le sida, tu vas mourir ». Donc objectivement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça m'étonne encore qu'on pense que ça peut se transmettre comme ça. Donc je pense que ça peut être très intéressant et une mine d'informations.
Il y a une scène comme ça aussi dans le bouquin, donc
ça fait écho. Alors, est-ce que tu veux juste nous rappeler le titre, l'auteur et la maison d'édition, s'il te plaît?
Alors, c'est Like a Love Story, donc en anglais, vous le trouverez, le titre est en anglais, de Abdi Nazemian aux éditions Milan.
Alors, on fait une seconde pause musicale sur Radio Campus Tour avant de passer à la seconde chronique dans cette émission. On se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tour. Et c'était Shima Effron sur Radio Campus Tour, album Soul Machine. Et le morceau que nous écoutions, c'était Yéménite. Nous parlons du prix alternatif du roman des étudiants de l'UFR Lettres et Langues de l'Université de Tours qui n'a pas eu lieu vendredi 17 janvier, mais qui se tient, et bien sûr, nos ondes grâce à nos trois chroniqueurs. Et il est temps de vous présenter un deuxième ouvrage.
Donc, comme j'ai dit, j'étais jury, donc j'ai lu les livres pour le prix, qui ne m'ont malheureusement pas beaucoup intéressée. En tout cas, il y avait certains livres où vraiment c'était pas du tout intéressant. Donc je pense que comme c'est censé être pour les étudiants, ça aurait été intéressant d'avoir des choses un peu plus fantastiques. Du coup, j'ai choisi Cogito de Victor Dixen, que beaucoup doivent connaître pour sa série Phobos, qui est apparemment très connue. Malheureusement, je ne l'ai pas lue. Donc Cogito est sorti le 29 mai 2019 par Robert Laffont et il fait 544 pages, donc il est très long, sachant que Victor Dixen a sorti deux livres cette année, Cogito et Extincta, qui sont tous les deux, font plus de 500 pages, respectivement sur les intelligences artificielles et le changement climatique. Donc Victor Dixen semble être un auteur qui est quand même engagé sur des choses intéressantes. Pour Cogito, il y a même un site web qui a été créé avec une présentation, un résumé, un test même pour savoir à combien de pourcents vous êtes une intelligence artificielle, des petites énigmes, donc voilà, c'est très intéressant, il y a beaucoup de travail qui a été fait autour de ce livre. Donc le livre parle de Roxane, qui a 18 ans, dont les parents ont été remplacés par des machines, et sa maman est décédée suite à un accident après ce changement, et son père est devenu alcoolique. Donc c'est vraiment elle est rejetée de la société actuelle et à peu près 80% je dirais des jobs ont été remplacés par des intelligences artificielles. Donc pour réussir dans ce nouveau monde, il faut réussir le bac, mais qui n'est pas le même bac que nous avons maintenant, c'est le brevet d'accès aux corporations. Et elle participe à un programme, en fait, à un stage de programmation neuronale qui permet, en fait, avec des petits bots dans la tête, de devenir un génie, en fait. Et elle part grâce à une bourse puisqu'elle n'a pas du tout l'argent. Donc, on suit cette jeune fille, Roxane, qui s'envole aux îles Fortunées. C'est un archipel tropical futuriste. Et où en fait elle va passer une semaine à se détendre, sauf le soir où en fait les petits intelligences artificielles dans sa tête vont la rendre plus intelligente. Donc elle part, il y a 20 autres étudiants si je me souviens bien et 3 avec une bourse. Et ce que promet Victor Dixen, c'est que l'ultime frontière sera votre cerveau. Pourquoi j'ai choisi ce livre-là? J'ai trouvé que c'était très intéressant au niveau des personnages historiques. Ça nous apprenait beaucoup de choses sur des personnages qu'on connaît déjà, comme Descartes, mais aussi sur Turing, que vous connaissez peut-être avec la machine Enigma. Ils ont même fait un film qui, d'ailleurs, il est homosexuel et malheureusement s'est suicidé. Et en fait, ça parle des intelligences artificielles. Ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Le livre est composé en fait de deux parties, moi je dirais différentes. Donc vraiment un début un peu drama, young adult, c'est quand même 20 jeunes qui sont sur une île où ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Mais on passe une deuxième partie du livre qui est beaucoup plus qui a un très bon rythme, qui est plus dans la science-fiction. Donc pour les gens qui voudraient s'intéresser à cet univers de science-fiction mais qui ont peut-être un peu peur, c'est assez intéressant puisque là on a vraiment le côté ado, elle a quand même 18 ans, elle connaît pas grand-chose sur les intelligences artificielles, mais voilà, ça rappelle Ex Machina, Westworld pour ceux qui regardent la série, même un peu Terminator. Donc voilà, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup le science-fiction, donc ça m'a tout de suite plu. Et ça pose des questions très intéressantes sur la société, sur ce que la société pourrait devenir. Et sans spoiler, le discours de Roxane à la fin est très intéressant et reflète beaucoup notre société actuelle d'aujourd'hui. Voilà. Donc je vais lire un petit extrait. L'histoire moderne est jalonnée de révolutions industrielles qui ont bouleversé la vie des hommes, reprend-il. si ce n'était qu'un détail dérisoire par rapport à ce qui l'intéresse vraiment. La première révolution a utilisé le charbon, la deuxième l'électricité et la troisième l'électronique. La quatrième révolution que nous vivons en ce moment est celle de l'intelligence artificielle. Elle est en train de changer le monde à jamais. Quand j'ai créé New Things, je pensais que les AI aideraient naturellement l'humanité à s'émanciper du travail dans ce qu'il y a de plus répétitif et aliénant, pour se consacrer aux tâches les plus nobles et les plus enrichissantes. Comme je te l'ai dit, je me considère comme l'un des derniers humanistes, au terme d'une longue lignée qui part de Léonard de Vinci jusqu'à Sartre, en passant par Descartes. Ou comme l'un des premiers transhumanismes, avec l'ambition de transcender l'espèce humaine grâce à la technologie. Les machines ne sont pour moi que des outils. Je n'ai pas choisi de donner des noms mythologiques à mes AI pour les glorifier, mais au contraire, pour mettre la puissance des dieux au service des humains.
Eh bien, merci à toi. Est-ce que tu veux nous rappeler à nouveau le titre, l'auteur et la maison d'édition de cet ouvrage ?
Donc, c'est Cogito de Victor Dixen, publié par Robert Laffont.
J'en profite pour faire un peu de propagande pour une radio qu'on aime bien quand même sur Radio Campus Tours, c'est France Culture. Et si je cite France Culture, c'est parce que vous trouverez, pour ceux qui s'intéressent aux travaux d'Alan Turing, il y a une excellente série qui s'appelle La Grande Traversée, et voilà, qui a été diffusée cet été, donc une grande traversée consacrée à l'énigmatique Alan Turing. Voilà, c'est très intéressant, c'est vraiment un portrait qui a été fait de ce grand savant. De quel livre nous parleras-tu, Antoine, après la pause musicale ?
Je vous parlerai d'Heptaméron avec Chardonnay de Gérard Oberlé.
Alors, avant de te laisser nous présenter cet ouvrage, je vous propose de faire une nouvelle pause musicale. Nous sommes toujours dans la Méridienne sur Radio Campus Tours, bien sûr. Bazarbi sur Radio Campus Tours, c'était Yves Way. Et voilà, je suis à nouveau en studio avec mes chroniqueurs littéraires et Antoine, c'est à toi de nous parler d'un livre que tu voulais présenter pour ce prix alternatif du roman des étudiants.
Je vais vous parler de Heptaméron avec Chardonnay de Gérard Oberlé, publié aux éditions Grasset. Alors Gérard Oberlé, c'est un ancien professeur de latin qui a fait une carrière très très courte, ayant mis en colère un inspecteur. Puis il a ouvert une librairie de livres anciens, Puis il est devenu éditeur, puis il a écrit des livres sur le vin, la nourriture. Puis il est devenu écrivain en 2000, avec des romans. Il a notamment eu le prix... Il a notamment eu le prix René Fallon en 2000, avec son tout premier roman Nil Rouge. Et ce que je vous présente, Heptaméron avec Chardonnay, est sorti au début de l'année 2019. Et c'est un recueil de nouvelles qui met en scène Claude Chassinet, qui est un personnage emblématique en fait de la lecture, de la littérature d'Auberlé. C'est inspiré d'un ancien, d'un auteur du XVIe siècle qui s'appelait Jean-François Chassinet. Et ce personnage est emblématique et se retrouve dans la plupart de ses romans. Dans ce livre, c'est le livre avec qui j'ai découvert Gérard Auberlé, et ces sept nouvelles sont très, en fait, sont très proches des gens. Ça se passe en France, dans le milieu de la campagne en France, et c'est très proche, c'est un style vraiment de nouvelles terroirs. Les histoires sont racontées avec du cœur, souvent avec de la table, du vin. Justement, Heptaméron avec Chardonnay, on retrouve du Chardonnay à chaque nouvelle. Ce sont souvent des souvenirs en fait de personnes. C'est l'auteur, le narrateur, qui est justement mis comme le personnage Gérard Auberlé face à Chassinet, qui serait un ami hypothétique. Et j'ai toujours été passionné par tout ce qui est nouvelle, notamment les nouvelles russes de Gogol ou de Stefan Zweig en Autriche. Là, c'est un style un petit peu empoulé, un petit peu à la manière de Zola, de Balzac, quelque chose d'un petit peu chargé, mais que j'adore. Et ayant grandi à la campagne, en fait, ça me rappelle énormément tout ce qui était les discussions de table. Oh, machin, qu'est-ce qui devient? Ah bah, il fait ça. Et en fait, ça me rappelle énormément mes grands-parents, un aspect campagnard, proche des gens, vraiment dans des rencontres et des histoires de famille. Et je trouve que ça rappelle la France. Alors, je suis parti rapidement de la campagne parce que y vivre c'était pas possible, mais relire ça me replonge dans les champs, les étendues de champs, les forêts, les histoires de chasse, les histoires de personnes qui ont des destins ahurissants. Et du coup, je vais vous lire une nouvelle complète qui est assez courte et qui s'appelle Chablis. Et c'est une petite nouvelle assez sympathique sur justement l'un de ses amis, enfin l'un de ses amis hypothétiques dans le roman. Quand je bois du Chablis, je porte toujours un toast à la mémoire de Rémi Labarre. Sa carcasse depuis longtemps feu se confond aujourd'hui avec l'houmous d'un parc à l'abandon près de Beaune. Les grands névrosés m'ont toujours séduit. La neurasthénie métamorphose quelquefois les personnes en véritables personnages. Rémi fut mon condisciple dans un collège huppé où les cancres de l'élite potassent la métrique latine et se récréent au golf et au bridge. Il n'était pas cancre, mais ne sachant gérer les excentricités de cet adolescent hétéroclite, sa famille s'en était tout de même débarrassée. Totalement inapte à respirer dans le monde réel, l'héritier Labarre s'abîmait dans la fiction et n'existait qu'en s'identifiant à des héros de romans et de films. Les mythomanes exigent un public. Pendant mes 5 années d'internat, dans cette boîte, je fus le spectateur conquis de celui-là. Je l'ai admiré en Maulne, en D'Artagnan, Chingachgook, en Bob Moran, Hippolyte, Cid Campeador, Chatterton et Dracula. En général, j'évite de revoir les amis de jeunesse 30 ans plus tard. On vieillit moins vite quand on n'est pas confronté aux vestiges du passé. Mais pour Rémi, qui avait retrouvé ma trace, je fis une exception par curiosité et lui rendis visite à plusieurs reprises dans la demeure où il vivait reclus, non loin de Beaune. Un copieux héritage lui avait permis de poursuivre ses chimères et de multiplier ses déguisements. Certaines bâtisses de la seconde moitié du 19e ne semblent avoir été imaginées par les architectes que pour servir de décor à d'étranges calamités. Celle où mon ami s'était enfermé depuis quelques années, l'agoraphobie étant la plus bénigne de ses obsessions, était un inextricable castel néo-gothique à vitraux, escalier secret et gargouille, parfait décor pour un roman frénétique de l'époque des Bouzingos. Livide et décharné comme un vampire au chômage, Rémi passait ses journées dans une chambre obscure, encombrée de meubles sculptés, de livres, de mi-blocs grotesques, tout un bric-à-brac d'horreur ornementale, de tableaux symbolistes et d'objets exotiques. Depuis des années, il vivait derrière des volets clos et derrière d'épaisses tentures fanées qui le préservaient de la lumière du jour. Il se levait la nuit et s'habillait de noir pour jouer du violon. En parcourant un jour l'anthologie de l'humour noir de Breton, je découvris l'origine de la nouvelle métamorphose de mon caméléon. Dans son choix d'habiter près de Beaune, cette thébaïde hermétique, de jouer du violon à minuit, il m'a paru clairement que l'ami retrouvé s'identifiait à Xavier Forneret, l'homme noir du romantisme qui, vers les années 1830-1840, effarouchait déjà les bourgeois bourguignons par ses habitudes excentriques. Une autre chose cependant m'intriguait. Rémy végétait là avec pour seule compagne de lit une bouteille de Chablis. Il me recevait couché dans un monstrueux lit à baldaquin, encombré de cahiers, de feuilles d'écriture et de livres, avec à portée de main un seau à glace où se trouvait au frais un flacon. Il ne m'a jamais proposé de déjeuner ou de dîner avec lui, et je devinais, après plusieurs visites, que Chablis était non seulement le complice de ses jours et de ses nuits, mais aussi son unique pitance. En prenant de la bouteille, certains buveurs s'épanouissent, s'enveloppent et se façonnent de rubicondes tronches, alors que d'autres se dessèchent. Privé de soleil comme un champignon de cave, Rémiève était blême. L'abstinence de nourriture solide avait creusé son visage selon le canon esthétique décavé d'un antique Christ espagnol en ivoire. Mon Rémy était devenu un camé chablicien. Je m'étonnais de ce que, gitant aussi près de Beaune, il ne variait jamais son ordinaire avec des vins d'Alox, Corton, Pomard, Volnay et autres chambertins, se prévant ainsi du triomphant cépage pinot noir, ce sang bleu de la généalogie bachique. Mais Rémy Labarre avait définitivement choisi de chardonner. Le chardonnay, cet or liquide à la fois sec et onctueux, nerveux et cependant caressant, est un cépage aussi mâle que féminin. Un auteur qui, mieux que personne, a chanté l'âme du vin de Bourgogne, Jean-François Bazin, a suggéré que le chardonnay avait plutôt le sexe des anges. Avec cet ange-là, Rémy vivait une passion amoureuse, exclusive et définitive. Lorsqu'il prononçait le nom de son aimé, c'était avec la tendresse voluptueuse des amants magnifiques. Dans sa bouche, Chablis commençait comme un chuchotement et se terminait en doux baisers. Cette belle ferveur me conquit à mon tour. Le Chablis dernier cru devint alors mon vin de fin de matinée. J'aimais à retrouver sa délicate acidité, sa discrète note de fleur d'acacia lorsque je revenais d'une balade en forêt avec mon chien. Mais j'hésitais à le boire à table, car Chablis est susceptible qu'élégant. Les mets richement cuisinés pourraient l'étouffer, l'écraser. Chablis a mis beaucoup de printemps dans mes automnes, comme un petit clin d'œil de pâquerette qu'empointe l'école chic. Rémy a bu son dernier verre en 1989. Une grande année pour Chablis. La maladie qui le rongeait lui accorda un sursis jusqu'aux vendanges. Respectant ses dernières volontés, j'ai répandu ses cendres parmi les feuilles mortes de son parc. Aujourd'hui, la sinistre demeure est livrée aux intempéries, et le jardin est un roncier impénétrable. Les héritiers de Rémy n'ont pas retrouvé d'acquéreur. Ce fut bien après son départ, un soir, en suivant un film des années 70 à la télévision, que j'eus l'explication du dernier rôle interprété par l'aventurier sédentaire qui avait parasité tant de types littéraires. Le vieux John Kilgood, plus shakespearien que jamais, y incarnait un écrivain insomniaque qui dans son lit se débattait avec les personnages de son ultime roman et apaisait un douloureux cancer avec du Chablis. Je reconnus l'étiquette de la bouteille. Rémy avait choisi le même producteur.
Eh bien, merci Antoine pour cette lecture. Est-ce que tu veux nous rappeler le titre, l'auteur et la maison d'édition ?
Donc, le titre est « Heptaméron avec Chardonnay » de Gérard Oberlet aux éditions Grasset.
Voilà, merci à tous les trois pour vos chroniques. Est-ce qu'on peut retrouver l'ensemble des livres qui ont été proposés pour ce prix alternatif étudiant quelque part ?
Alors moi, je pense qu'on peut le retrouver à la boîte à livres parce qu'a priori, il n'aurait pas d'Oberlet au livre.
Moi, je l'ai acheté à la boîte à livres, enfin, je l'ai commandé plutôt, mais vous le trouverez dans n'importe quelle librairie, c'est un roman populaire.
Moi, plutôt Cultura Fnac, c'est surtout Extincta, vu qu'il vient de sortir, qui est plus présent, mais vous pouvez aussi retrouver Cogito.
Et pour ce qui est des romans, parce que je suppose qu'il y avait d'autres romans qui ont été proposés pour ce prix, est-ce qu'on peut retrouver la liste des romans proposés quelque part ?
Je peux même vous la donner, si vous voulez.
Allez.
La mer à l'envers de Marie Dariussec, Tout le monde n'habite pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois, Éden de Monica Sabolo et La maison d'Emma Becker et aussi Sur les routes de Sylvain Prudhomme.
Voilà, et bien merci encore une fois à tous les trois et avant que l'on se quitte, puisque cette émission touche déjà à sa fin, peut-être que vous avez un livre en cours de lecture que vous aimeriez recommander à nos auditeurs.
Alors en cours de lecture, j'ai le deuxième tome des Magnus Chase. Donc Rick Riordan, pour ceux qui ne connaissent pas, est un spécialiste de mythologie. Donc d'abord avec la saga des Sangs Mêlés, qui comprend les Percy Jackson, les Héros de l'Olympe et actuellement les Travaux d'Apollon. Donc j'ai acheté le dernier tome des Travaux d'Apollon, mais je ne l'ai pas encore lu. On va pas me spoiler. Mais, et du coup, sa deuxième saga, qui sont les Magnus Chase sur la mythologie nordique. Donc pour tous les fans de mythologie, ce sont des... livre à recommander et incroyablement humoristique, donc c'est un vrai plaisir.
Je tiens aussi à dire que Rick Riordan est vraiment un très bon auteur. Moi j'ai découvert depuis cette année Alice Oseman, qui est anglaise. Ces livres sont actuellement traduits en France. Donc il y a L'année solitaire et Radio Silence, donc Radio Silence. Et donc j'ai lu récemment I Was Born for This, qui parle pour les personnes qui, comme moi, ont été très fans des One Direction, des choses comme ça. Donc là, on suit un boy band et une fan. Et un peu, voilà, ce monde-là, c'est très intéressant. Ça parle aussi d'anxiété, de suicide. Donc voilà, je le conseille très grandement, et tous ces livres aussi.
Alors moi, je suis beaucoup plus classique. Je viens de démarrer pour la première fois Crime et Châtiment de Dostoïevski, parce que j'ai une passion pour la littérature russe, et franchement, il est assez bon.
Merci à tous les trois, et je propose que l'on se quitte en écoutant une chanteuse française, voilà, qui fait des chansons pareilles, très humoristiques, avec un grand plaisir sur le vocabulaire, les jeux de mots, les doubles sens, et qui, sur scène, incarne, elle joue ses chansons. Donc non, ce n'est pas Barbara, parce que je varie un peu quand même. C'est Anne Sylvestre, et elle nous chante Langue de pute. Alors oui, je dis des gros mots, je m'en excuse. Et surtout, écoutez cette chanson, écoutez Anne Sylvestre, et je souhaite à tous une excellente journée à l'écoute de nos programmes.
Y a-t-il longtemps que tu as vu chose? Il a pris un sacré coup de vieux. Il est farci de coupe rose. D'après moi, il picole un peu. Il faut dire qu'il a des excuses. Sa femme, il faut se la taper. Madame, elle a la science infuse. Mais je ne veux pas l'accabler avec un mari de la sorte, toujours à faire le joli cœur. Moi j'aurais déjà pris la porte. Il faut croire que ça lui fait peur. Remarque, elle me fait de la peine, car franchement, c'est une belle humaine. Mais 5 minutes de langue de pute, c'est fou le bien que ça nous fait. En 5 minutes, on exécute tous les amis, les faux, les vrais. Et même si ça vous rebute, ne dites pas que ça vous déplaît, hein. Ça nous chahute, ça se discute, mais on est des brutes. Ma voisine, la grande bique, tu sais, celle avec le scooter, je t'assure, elle est dramatique. Paraît qu'elle se shoot à l'éther. Oui, c'est depuis sa tentative. C'est depuis que ce grand connard lui a flanqué dans les gencives qu'elle n'était pas bonne au plumard, le salaud. Mais faut reconnaître qu'il avait peut-être pas tort. Elle n'ose pas l'envoyer paître. Elle veut le remplacer d'abord, le pauvre. Moi je l'aime bien, car enfin c'est un bel humain. Mais 5 minutes de langue de pute, c'est fou le bien que ça nous fait. En 5 minutes, on exécute tous les amis, les faux, les vrais. Et même si ça vous rebute, ne dites pas que ça vous déplaît. Ça nous chahute, ça se discute, mais on est des brutes. Au fait, que devient une telle, toujours aussi mal fagotée? Elle pourrait être presque belle si elle savait mieux s'arranger. Mais il n'y a qu'à regarder sa mère, on voit bien comme elle deviendra. Jules a quitté sa poissonnière pour une chanteuse d'opéra. Ça va changer un peu l'ambiance. La sœur de truc s'est fait lifter, ça se voit pas. Bob se fiance, c'est pas ça qui va l'arranger. À moi, je ne lui reproche rien, non. Non, vraiment, c'est un bel humain. Mais 5 minutes de langue de pute, c'est fou le bien que ça nous fait. En 5 minutes, on exécute tous les amis, les fous, les vrais. Et même si ça vous rebute, ne dites pas que ça vous déplaît. Ça nous chahute, ça se discute, mais on est des brutes, hein. Peut-être que ça vous en repile. Pas très sympa tous ces ragots. Mais j'ai la conscience tranquille, dès que j'aurai tourné le dos, c'est moi qui deviendrai la cible de leurs folles insinuations. Elle chante encore, c'est pas possible. Mais quel âge, salut sinon. Il paraît qu'elle est pas facile, qu'elle aime pas vraiment les marmots, que les bons hommes c'est pas son style, et qu'elle flambe dans les casinos. C'est pas grave qu'on la débine, faut dire que c'est une bonne copine. Mais 5 minutes de langue de pute, c'est fou le bien que ça leur fait. En 5 minutes, ils m'exécutent, que ça soit faux, que ça soit vrai. Et même s'ils attendent ma chute, jamais je les contenterai. Ce qu'on m'impute, je le réfute, ouais. Je suis pas une brute. Moi,